Laudetur Jesus Christus.
Plus de 15 mois de guerre civile au Soudan et toujours aucune volonté d'accalmie des deux parties. La situation de millions de civils est préoccupante et la communauté internationale doit se mobiliser. C'est l'appel lancé ce soir par un responsable de la Croix-Rouge. Nous l'entendrons au début de ce journal. Un émissaire américain au Liban ce mardi pour tenter de faire baisser la tension à la frontière avec Israël. Une mission très délicate alors que les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont quotidiens. Dans ce journal, nous reviendrons également sur ce rapport en RDC de la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes et leur invitation à promouvoir la démocratie. Et puis direction également le Nigeria où dans l'état de Kano, le gouverneur tire la sonnette d'alarme concernant le manque de moyens dans le secteur scolaire.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. La guerre civile au Soudan continue de déplacer des millions de personnes à l'intérieur du pays. L'armée régulière s'oppose toujours aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Cette guerre a provoqué une catastrophe humanitaire oubliée alors que les yeux de la communauté internationale sont plutôt tournés vers Gaza ou encore l'Ukraine. Pourtant, selon l'ONU, près de 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence et un accès aux soins de santé qui reste très difficile. Je vous propose d'écouter Anna Ezam, il est le porte-parole de la Croix-Rouge internationale au Soudan.
Le monde ne doit pas oublier la tragédie que le peuple soudanais est en train de vivre et ses besoins croissants dans un contexte d'escalade du conflit. Nous appelons la communauté internationale à garder à l'esprit les millions de Soudanais qui, chaque jour, luttent tragiquement pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Nous demandons de continuer à soutenir les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain pour répondre à ces besoins immenses et variés en termes de secours, d'assistance et de protection. Il y a encore 2 mois, nous parlions de 8 millions de personnes réfugiées. Aujourd'hui, on est à 9 millions. L'évolution de la situation a donc affecté un grand nombre de Soudanais. Si l'on parle spécifiquement du système de santé, seuls 20% des centres de soins fonctionnent encore. L'une des questions clés est la nécessité de respecter le droit humanitaire international et c'est là un élément important de notre appel. Continuer à rappeler aux acteurs du conflit leurs obligations en vertu du droit humanitaire international. C'est leur responsabilité de s'assurer que les personnes vivant sur leur territoire puissent satisfaire leurs besoins essentiels, notamment en disposant d'une quantité suffisante de nourriture et d'eau et en garantissant un accès sans entrave à l'aide vitale.
Adnan Ezam, porte-parole de la Croix-Rouge internationale. Il répondait à Déborah Castellano-Lubov, notre consoeur du programme anglophone de Radio Vatican. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour voter une résolution demandant la fin du siège d'Al-Fasher, l'une des principales villes du Darfour, où des centaines de milliers de civils soudanais sont pris au piège. Les manifestations contre Benjamin Netanyahou se poursuivent en Israël. Manifestations pour demander un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en vue d'une libération des otages. Et sur les personnes enlevées, 116 sont toujours otages à Gaza et 41 seraient mortes selon l'armée. Le Premier ministre israélien qui va rencontrer des familles le 23 juin prochain à sa résidence, a-t-on appris aujourd'hui. Et puis, selon la radio-télévision publique israélienne Kan, le renseignement militaire de l'État hébreu avait eu connaissance peu avant le 7 octobre d'un projet d'attaque du Hamas dont le but était de prendre plusieurs centaines d'otages en Israël. Selon des écoutes, ce rapport rédigé le 19 septembre détaille des entraînements d'unités d'élite du mouvement islamiste palestinien en vue de raids contre des positions militaires et des kibboutz. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition demain matin à 8h30. Un émissaire américain, je vous le disais en titre, pour tenter de faire baisser la tension entre le Liban et Israël. Après Jérusalem hier, Amos Hochstein était ce mardi à Beyrouth. Il a fait part de ses préoccupations devant la situation à la frontière israélo-libanaise où le Hezbollah chiite et Tsahal s'affrontent quotidiennement depuis le 8 octobre. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
Dès son arrivée à Beyrouth, l'émissaire de Joe Biden a donné le ton. Il est urgent de résoudre diplomatiquement le conflit, a-t-il dit, qualifiant de grave la situation à la frontière entre le Liban et Israël. Dans une déclaration rapportée par des agences de presse internationales, Amos Hochstein a indiqué que les États-Unis tentent d'éviter une guerre plus importante entre Israël et le Hezbollah. À Beyrouth, le diplomate américain a rencontré le Premier ministre, le président du Parlement et le chef de l'armée. Après son entretien avec Amos Hochstein, le chef du gouvernement libanais Najib Miati a précisé dans un communiqué que la conclusion d'une trêve à la frontière libano-israélienne est une priorité. Il a appelé à l'arrêt des violations continues de la souveraineté libanaise et des massacres et destructions systématiques perpétrés par Israël. Le Hezbollah affirme depuis des mois qu'un arrêt des hostilités sur le front libano-israélien est tributaire de la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis semblent désormais adhérer à cette approche. Amos Hochstein a déclaré qu'un accord à Gaza est le meilleur moyen de mettre fin aux violences entre le Hezbollah et Israël et de permettre le retour des déplacés des deux côtés de la frontière. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
La Suède convoque l'ambassadeur de Russie à Stockholm après qu'un avion de chasse a survolé son espace aérien. C'était vendredi dernier. L'avion russe a violé l'espace suédois à proximité de l'île de Gotland. C'est en mer Baltique et ne s'est éloigné qu'après que la Suède a fait décoller deux avions de combat. La Russie qui envisage de signer un traité de partenariat stratégique avec la Corée du Nord, annonce faite alors que Vladimir Poutine est arrivé ce mardi à Pyongyang pour y rencontrer son homologue Kim Jong-un. Le président russe qui s'est félicité aujourd'hui du ferme soutien de la dictature communiste à la guerre qu'il mène en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne qui lui exhorte la communauté internationale, je cite, à contrer l'amitié virile entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en augmentant les livraisons d'armes à Kiev. Et puis la Chine, elle est toujours dans le viseur des Occidentaux concernant cette guerre de la Russie en Ukraine. Le soutien de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine doit cesser, vient de déclarer le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Il était aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite à Washington. Dans l'actualité africaine, ce mardi, un rapport très attendu en RDC, celui de la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes. Elles ont rendu leurs conclusions sur le cycle électoral 2019-2023, soit 6 mois après l'organisation des élections, émaillées de nombreuses irrégularités. Et elles appellent à renforcer le processus démocratique dans le pays. Les précisions de Christian Lesambé.
Sous l'égide de la Commission épiscopale pour la justice et la paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la présentation du rapport du cycle électoral 2019-2023 s'est déroulée dans un climat paisible et de collaboration constructive au centre interdiocésain de Kinshasa. Si le révérend Eric Senga, pasteur de l'Église du Christ au Congo, a exposé toutes les analyses et observations accumulées durant le récent cycle électoral, c'est le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donald Cholet, qui a présenté les différentes recommandations émises par la mission d'observation électorale CENCO-SCC, précisant que la publication de ce rapport marque une étape cruciale dans l'évaluation démocratique du pays, soulignant les défis relevés et offrant des pistes pour améliorer les processus électoraux dans l'avenir. Dans le but de renforcer davantage le processus électoral dans le pays, la MOE 5OSCC a exhorté le président de la République à intensifier ses efforts pour assurer le bon fonctionnement des institutions publiques. Elle a également plaidé pour la tenue des états généraux sur l'organisation des élections afin de renouveler le pacte républicain et consolider l'unité nationale autour de l'accès au pouvoir pour préserver la paix et la stabilité du pays.
Christian Lesambé, direction le Nigeria, où le gouverneur de l'état de Kano tire la sonnette d'alarme concernant le manque criant de moyens dans le secteur scolaire. Plus de 4,7 millions d'élèves sont obligés de s'asseoir par terre pour apprendre, tandis que 400 écoles de cet état n'ont qu'un seul enseignant pour toutes les classes et toutes les matières. Les détails avec notre correspondant à Abuja, Ishaki Adegboye.
Le gouverneur de l'état de Kano, Abba Youssouf, a déploré la situation lamentable du secteur éducatif de l'état. Déclarant l'état d'urgence dans le domaine de l'éducation, le gouverneur a annoncé son intention d'embaucher 5000 nouveaux enseignants pour rajeunir le secteur éducatif. Il a condamné la négligence et l'exploitation des installations scolaires à des fins commerciales, la qualifiant d'attaque contre l'éducation publique. Il a assuré que l'époque où les élèves subissaient des conditions difficiles pendant leur apprentissage était révolue, s'engageant à assurer une réhabilitation complète et la fourniture du mobilier. Pour rappel, 18 millions d'enfants nigériens ne sont pas scolarisés. Selon un rapport de l'UNICEF, en plus, le Nigeria compte 40 millions d'analphabètes. Il a également promis de s'attaquer au nombre croissant d'enfants non scolarisés dans l'état de Kano, assurant que plusieurs mesures étaient prises à cet effet. Ishaka Deboye, Radio Vatican, Abuja.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.